Premier livre des Rois, chapitre 17, dont nous lisons les 16 premiers versets. 1 Rois 17, versets 1 à 16. Je lis au verset 1er, Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots, « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. » Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon, demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Il se leva, il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot, un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse deux morceaux de bois, puis je rentrerai, je préparerai cela pour moi, pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Élie lui dit, « Ne crains point, rentre. Fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau. Tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi, pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point. L'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. » Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Dans le Nouveau Testament, un second texte, dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 4, Luc, chapitre 4, versets 24 à 26, des paroles que nous cueillons sur les lèvres du Seigneur Jésus lui-même. Luc 4, versets 24 à 26. Mais, ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien accueilli dans sa patrie. Je vous le dis en vérité. Il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve, à Sarepta, dans le pays de Sidon. Nous avons hier considéré les deux premières leçons du torrent de Kérit. Au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec. L'épreuve du temps. Vivre dans le temps de Dieu. C'était hier matin. Et puis, pour hier soir, nous avons utilisé le téléphone et le diapason. Et nous avons évoqué le « là » de Dieu. Là, 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 là. Ces quatre « là » qui jalonnent l'itinéraire du prophète au cœur de la volonté de Dieu. L'épreuve du lieu. Vivre dans le lieu de Dieu. Nous allons ce matin considérer la troisième leçon. Et la troisième leçon est liée tout particulièrement à la vie de prière du prophète Élie que nous avons considéré hier. Mais pour en signaler un côté fort désagréable, qui nous perturbe aussi plus d'une fois. Nous sommes certains qu'Élie, homme de prière, s'est mis à prier lorsqu'il a constaté la baisse du niveau du torrent. Et nous avons dit que si nous avions été dans la peau d'Élie, à la place d'Élie, ce qui nous aurait peut-être désarçonné, c'est l'attitude de Dieu se refusant à répondre à notre prière alors que le niveau du torrent baissait inexorablement. Problème des silences persistants de Dieu et de leur interprétation. L'épreuve du silence de Dieu. Vivre dans le silence de Dieu. Non pas s'étioler comme une fleur qui se fane. Non pas dépérir. Non pas se rabougrir. Mais vivre avec un grand V dans le silence de Dieu. Combien le sentiment d'abandon est désagréable. Combien le sentiment d'insensibilité de la part de Dieu nous est désagréable. Combien ce que nous croyons percevoir comme surdité de notre Dieu peut nous décourager, nous conduire au doute, à la révolte, au désespoir. Alors, ce matin, nous sommes heureux de nous inscrire comme à contre-pied, en disant non. Non, Dieu ne nous abandonne pas. Il est fidèle. Et je pense ici à ce prisonnier juif, enfermé dans une prison de la ville de Cologne, en Allemagne, et qui avait écrit sur un mur de sa cellule ces mots particulièrement émouvants. Je crois au soleil même quand il ne brille pas. Je crois en l'amour même quand il ne m'entoure pas. Je crois en Dieu même quand il se tait. Je crois en Dieu même quand il se tait. Si nous avons le plaisir, mon épouse et moi, de vous accueillir un jour, dans notre petite maison, à proximité d'Orléans, en direction de Paris, et que j'ai le bonheur de pouvoir vous introduire dans mon bureau. Quand vous entrerez dans le bureau, je pense que la première chose qui frappera votre regard, au-delà de la bibliothèque, ce sera une magnifique planche de bois, d'un bois très beau, très noble, très chaud, creusée de quelques mots des Écritures. C'est ce que je vois tous les jours quand j'entre dans mon bureau. Ce n'est pas un verset fréquemment lisible sur les murs de nos foyers évangéliques. Je ne me souviens pas l'avoir déjà rencontré. Mais combien je suis heureux de ce cadeau qui m'a été offert il y a déjà un certain nombre d'années par cette grand-mamie dans le Seigneur dont je vous entretenais lors d'une des études de Lausanne. qui a tant et tant prié pour nous pendant des années et qui un jour a rempli mon cœur d'un bonheur indicible lorsqu'elle m'a offert ce tableau, cette planche très épaisse avec ses bordures d'écorce et ses quelques mots. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Chaque fois que j'entre dans mon bureau, Dieu me rappelle le psaume 65 et le verset 10. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que même lorsque Dieu se tait, il travaille. Même lorsque Dieu se tait, il travaille. Et je pense aux claviers muets des pianistes, de ces virtuoses, souvent en voyage, allant de par le monde de salle de concert en salle de concert, accueillis dans des hôtels, et devant, bien entendu, s'exercer en permanence pour maintenir un haut niveau de qualité d'exécution dans leur art. Et qui travaillent en silence. Inaudibles des chambres voisines. Et combien c'est nécessaire. Tout simplement parce qu'ils transportent avec eux ce clavier muet. Alors vous êtes dans la chambre d'à côté. Et vous n'entendez rien. Et vous vous dites, eh bien, Beethoven, il fait de bons dodos. Alors que depuis des heures, ils sont là, à travailler, à préparer, pour vous permettre de vivre une soirée d'une qualité absolument exceptionnelle dont vous allez vous souvenir toute votre vie durant. C'est le célèbre Rubinstein qui utilisait beaucoup cet instrument très discret. Et un jour, il confia à un autre artiste, quand je laisse un jour passer sans en jouer de ce clavier muet, je m'en aperçois aussitôt. Quand je laisse deux jours passer, mes amis s'en aperçoivent. Quand je laisse trois jours, un public de connaisseurs s'en aperçoit à son tour. Mais bien aimé, notre Dieu est continuellement au clavier muet. Et là où nous sommes tentés de dire « Notre Dieu, il fait dodo », non. Psaume 121, n'est-ce pas, verset 4. « Il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. » Et je pense à ce contraste avec Baal, dans 1 Roi 18, dans cette confrontation qui a été le grand tournant pour la nation d'Israël au chapitre 18. Lorsque les prophètes de Baal commencent à invoquer leur Dieu, et ils le font, nous dit le verset 26 d'un roi 18, ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi, en disant « Baal, réponds-nous !» Mais il n'y eut ni voix, ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. Et à midi, il y a beaucoup d'humour dans les Écritures. Hein? À midi, Élie se moqua d'eux. Et il dit, criez à haute voix puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose. Ou il est occupé. Ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort. Et il se réveillera. Vous imaginez un peu le tableau. Et ils crièrent, ils entrent dans le jeu, n'est-ce pas? Ils sont vexés, ils crièrent à haute voix, ils se firent selon leur coutume des incisions, avec des épées, avec des lances, jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, donc sur le soir, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Voilà le contraste entre le Dieu vivant et les idoles. En fait, Dieu a déjà prévu une incroyable délivrance. Et cela me rappelle un verset très célèbre des Écritures, l'un peut-être des plus connus pour la vie du disciple de Christ dans 1 Corinthiens 10, 13, n'est-ce pas ? Aucune tentation, aucune épreuve, on peut utiliser l'un ou l'autre des termes parce que c'est le même mot dans le texte grec, et c'est le contexte qui décide du choix entre les deux. Aucune épreuve, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Puis alors il y a un « mais ». Encore un de ces « mais » mais qui met du baume sur le cœur, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez l'endurer, la supporter. Il préparera le moyen d'en sortir. Et en fait, Dieu est en train de préparer le moyen prévu de toute éternité pour que notre ami Élie sorte de cette situation à la fois d'épreuve et de tentation, puisque la puissance des ténèbres est là derrière pour essayer de le faire chuter, n'est-ce pas, qu'il en sorte de manière victorieuse. Et puis, comme nous allons le voir, Dieu veut conduire Élie plus loin. Trois citations relevées parce qu'elles sont édifiantes sur ce sujet. L'une de Georges Verwer, fondateur d'Opération Mobilisation, et qui a écrit ceci, « Les prières non exaucées, ou celles qui semblent être non exaucées, constituent l'un des autels les plus efficaces où Dieu forme ses vrais instruments. » Nous avons évoqué hier soir James Fraser, ce missionnaire du siècle dernier, homme de prière, homme de la même nature que nous, mais qui a écrit ceci, « Les prières non exaucées m'ont enseigné à chercher la volonté de Dieu et non la mienne. Je suppose que nous avons connu pour la plupart de telles expériences. Nous avons prié, prié, prié encore !» Sans réponse. Le ciel était d'airain sur nos têtes. Mais béni soit cet airain s'il nous a appris à ensevelir un peu plus dans la croix de Christ ce moi toujours présent. Parfois, notre requête était si bonne en apparence, mais cela ne garantit pas qu'elle soit de Dieu. Beaucoup de bons désirs proviennent d'un moi non crucifié. Et puis, un homme de Dieu actuel, qui écrit ceci, « La foi que Dieu apprécie semble croître de préférence quand tout s'en mêle, quand Dieu garde le silence, quand le brouillard descend. » Alors essayons maintenant de creuser tout cela. Premièrement, Dieu a ses solutions à mes problèmes. Dieu a ses solutions. Et la solution de Dieu au problème d'Élie devant ce torrent qui se vidait inexorablement, la solution de Dieu a certainement été une source de grand étonnement pour le prophète. Toujours avec sa verve et son langage très imagé, Martin Luther a dit ceci, « Nous demandons de l'argent à Dieu. Il nous donne de l'or. » Et attention, l'illustration est intéressante. Cela se passe au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Un croyant d'Angleterre envoie un don à la SGM, Scripture Gift Mission, qui existe toujours, en mentionnant qu'il aurait voulu envoyer davantage, mais que la récolte n'avait pas été bonne à cause du manque d'eau sur sa ferme. Et il profite de l'envoi de ce don et de ce courrier pour faire savoir qu'il était inquiet à cause des nombreuses bombes que les Allemands lâchaient. Et il demandait donc au personnel de la SGM de prier pour que lui et sa famille soient épargnés. Et quelque temps plus tard, il reçoit une réponse de l'un des responsables qui lui écrit qu'il ne pouvait pas demander au Seigneur qu'aucune bombe ne tombe sur sa terre, mais qu'il prierait afin que la volonté de Dieu s'accomplisse dans leur vie. Peu de temps après que le fermier ait reçu la lettre, une énorme bombe explose près de la maison, de la ferme de cet homme et de sa famille. Personne n'est blessé, mais la bombe entre cependant si profondément dans le sol qu'elle fait surgir un cours d'eau souterrain. La source continue à couler et fournit suffisamment d'eau pour résoudre les problèmes d'irrigation, non seulement de sa propre ferme, mais aussi de celle de ses voisins. Si bien que l'année suivante, notre fermier, grâce à une abondante récolte, d'envoyer avec les explications appropriées un don extrêmement généreux à cette mission. Une réponse de Dieu qui a fait l'effet d'une bombe. Et voyez-vous, la réponse de Dieu dans 1 Roi 17 et au verset 8 a aussi fait à Élie l'effet d'une bombe. Et c'est pourquoi, après avoir souligné que Dieu a ses solutions à nos problèmes, nous ajoutons aussitôt que Dieu nous prépare à comprendre et à accepter ses solutions. Dieu connaît, Dieu voit l'avenir, nous l'avons vu dans Exode 13, n'est-ce pas, dans ce fameux détour, ce ralentisseur extrêmement désagréable. Dieu fit faire un détour au peuple d'Israël afin qu'il n'ait pas à passer par le chemin des Philistins qui aurait amené le peuple à démissionner devant l'hostilité, la supériorité stratégique des Philistins. Dieu savait. Alors, en ce qui concerne notre ami Élie, Dieu voulait manifestement faire d'une pierre deux coups. Premièrement, Dieu voulait continuer à protéger son serviteur et à pourvoir à ses besoins. Mais Dieu voit plus loin. Et voyant plus loin, Dieu voulait sauver une pauvre veuve païenne de Sarepta qui appartient à Sidon. Sidon, Saïda aujourd'hui, donc ville portuaire au sud de Beyrouth, nous avons visité il y a quelques années. Or, Sarepta, c'est la France. Ah oui. Sarepta, c'est la France. Et je comprends qu'Élie ait eu peur d'aller en France. Si vous achetez un dictionnaire français-hébreu ou hébreu-français, vous lirez tout d'abord l'indication en français, hein, français-hébreu, et puis vous lirez peut-être en dessous, si vous le pouvez, ce qui est écrit en hébreu. Et vous verrez qu'en dessous du mot, de l'adjectif hébreu, dictionnaire hébreu français, sous le mot hébreu, vous aurez ivri. Et sous le mot français, vous aurez tsarfati. Parce que tsarfati est un adjectif qui vient de tsarfat. Et tsarfat, c'est très intéressant parce que c'est Sarepta. Tsarfat est un petit mot hébreu qui signifie fonderie, qui sous-entend qu'il y avait sans doute en cet endroit des fonderies à cette époque. On s'occupait de fonte. qui s'est transformé, il est devenu Saréphat, et puis il est finalement arrivé jusqu'à nous sous sa forme ultime, Sarepta. Et si vous interrogez un juif en terre d'Israël, il vous dira, Tsarfat, oh oui, Tsarfat c'est la Gaule. Tsarfat c'est la France. Comme Ashkenaz, c'est l'Allemagne. Les Ashkenazim, ce sont les gens qui viennent de ces régions, n'est-ce pas, du nord, de l'est de l'Europe, en particulier de l'Allemagne. Là où Ashkenazim vise les Allemands, les Tsarfatim, cela vise les Gaulois, les Français, aujourd'hui. Donc j'ai bien dit, n'est-ce pas, notre ami Élie est invité à se rendre en France. Et ça ne lui plaît pas. D'ailleurs, toute l'histoire d'Élie tourne autour de deux pays, c'est la France et la Suisse. C'est une histoire entre les Gaulois de Tsarfat, de Sarepta, et puis les Suisses de Baal, puisqu'il est question de Baal. Donc moi j'ai l'impression que ça se passe sur la frontière entre Baal en Suisse et Saint-Louis en Tsarfat, en France. Donc nous savons maintenant un peu mieux, géographiquement parlant, où se situe cette histoire. Vous avez compris. Bien, merci. Au-delà de notre humour, il en faut. Il est évident que il y a quelque chose de terriblement choquant pour Élie d'entendre l'Éternel lui dire « Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. » Parce que si nous nous souvenons de ce que nous avons lu dans 1 Roi 16, verset 31, « Comme si c'était pour Akab peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Etbaal, roi des Sidoniens. » Sidon, grand prêtre de Baal. Mais est-ce que nous nous rendons compte? Dieu est en train de dire à ce prophète fidèle, ce juif pur sucre, tu sors des frontières du pays et tu vas dans l'antre de la bête. Tu te rends à l'endroit même où jaillit cette source, d'où jaillit tout le mal contre lequel il faut lutter en terre d'Israël. Sidon égale Jézabel. Alors, mais vous rendez compte? Élie, qui avait l'habitude du feu du ciel, n'avait lui qu'une seule envie, c'est que Dieu l'envoie en commando à Sidon avec du plastique pour faire sauter Sidon. Ah Seigneur, si le feu du ciel pouvait tomber sur Sidon, notre problème serait réglé. Dieu lui dit, ben Sidon, c'est là que j'ai prévu une solution pour ton problème, c'est là que j'ai prévu de te nourrir. Alors vous comprenez que Dieu devait d'abord préparer Élie à accepter cette solution. Il fallait que le cœur d'Élie soit préparé. Croyez-vous que Dieu aurait, qu'Élie aurait accepté comme ça, sans broncher, lui le champion d'Israël, de se rendre à Sidon si un travail de Dieu ne s'était pas opéré préalablement dans son cœur, dans son esprit, dans sa mentalité? Il fallait donc que la mentalité du prophète change. Et pour que la mentalité du prophète change, eh bien Dieu a tout d'abord choisi le moyen choquant pour nourrir son prophète. Il a choisi des corbeaux, des oiseaux impurs. Pour qu'un travail se fasse dans le cœur du prophète, mais Seigneur, comment se fait-il? Tu aurais pu choisir des colombes, Pourquoi est-ce que tu as choisi cet animal qui est tellement choquant, comme nous l'avons dit? Pourquoi es-tu si déconcertant dans ta fidélité généreuse pour pourvoir à mes besoins? Et vous savez, nous avons un solide appui pour le dire dans les Écritures. Parce que dans le Nouveau Testament, nous avons un récit tout à fait identique dans le livre des Actes, au chapitre 10. Dans le livre des Actes, au chapitre 10, disons déjà à la fin du chapitre 9, il est question de cette belle intervention, ce miracle fait en présence de Pierre par le Seigneur à Joppé. Il s'agit de la résurrection de Dorcas, n'est-ce pas? Et puis il est dit dans le dernier verset du chapitre 9 que Pierre demeura quelque temps, verset 43 du chapitre 9, à Joppé, chez un corroyeur nommé Simon. Et ceci est répété, comme toujours dans les Écritures, quand Dieu veut que nous évitions de passer sur un message en TGV, il le répète. Il nous rend attentifs à la nécessité de nous interroger, donc il répète au chapitre 10 et au verset 5, « Envoie maintenant des hommes à Joppé, fais venir Simon, surnommé Pierre, il est logé chez un certain Simon, corroyeur, dont la maison est près de la mer. » Oh, précision utile. Le champion du Seigneur glorifié, l'apôtre Pierre, choisit de loger chez un ouvrier du cuir, chez un tanneur, au bord de la mer, à l'écart de la cité. Parce qu'il faut de l'eau, en abondance, pour le métier qu'il exerce, et que les odeurs, n'en parlons pas. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle ce tanneur, ce corroyeur, cet ouvrier du cuir habite là. Il habite à l'écart, parce qu'il est au banc de la société juive, étant donné qu'il exerce un métier impur. Il manipule des cadavres. Et c'est assez extraordinaire de découvrir là, subitement, dans ce verset 42, que oui, Pierre va habiter chez ce personnage, comme si un travail de Dieu préalable est déjà en train de s'opérer dans sa vie. Une sorte de travail de rapprochement qui va se concrétiser au chapitre 10 avec l'histoire de Corneille. Et vous remarquez dans ce chapitre 10, verset 9, le lendemain, comme donc la délégation de ce centenier, Corneille, de ce païen qui craint Dieu, qui le cherche, comme ils sont en route et qu'ils approchent de la ville, Pierre monta sur le toit vers midi pour prier. Il eut faim, il voulut manger. Vous voyez, circonstances semblables, il est question d'une nécessité de se nourrir, comme pour Élie. Et là, pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Il y avait des corbeaux, appelez ça comme vous voulez, des corneilles pour le bonhomme qui avait envoyé les délégués, mais peu importe. Et vous remarquez le problème. Une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit, « Oh, j'aime la réponse. Non, Seigneur. » C'est notre problème. Hein? On affirme que Christ est Seigneur et on lui dit non en même temps. Hein? « Non, Seigneur. » Il faut lire dans les Écritures le nombre de fois où à côté du mot « Seigneur », il y a le mot « non » ou le mot « mais ». Mes amis, c'est intéressant. « Non, Seigneur !» Car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Et pour la deuxième fois, la voix se fit encore entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à trois fois. Et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Je pense qu'il y a deux raisons pour lesquelles cela est arrivé trois fois. La première, nous l'avons déjà dit dans notre cours. Ou peut-être dimanche, je ne me souviens plus. Le dimanche précédent, pas hier. C'est que nous avons, et Pierre est juif, n'est-ce pas? Donc pour lui, il fallait le superlatif absolu dans la pensée juive. Et quand on voulait exprimer un superlatif absolu, ce qui était le plus élevé, le plus important, on répétait un événement ou un mot trois fois. Alors, ça devenait d'une importance extrême. N'est-ce pas? Et donc, de cette manière, Pierre a compris que le message de Dieu pour lui, le message du Seigneur glorifié ici, était incontournable, qu'il y avait là un verrou qui devait sauter pour l'avenir de l'Église de Jésus-Christ. Et puis, il y a une autre raison, puisque au verset 19, il est dit, comme Pierre réfléchissait autour, littéralement, de la vision, il tournait tout autour, l'Esprit lui dit, voici, trois hommes te demandent, trois fois, trois hommes. Il fallait donc que tout un travail préparatoire se fasse dans le cœur de Simon-Pierre, au niveau de la nourriture, avec la présence d'animaux impurs et d'oiseaux impurs, pour que finalement, notre homme accepte de partir sans hésiter, nous dit le verset 20, avec les délégués. Et qu'ensuite, Corneille et les siens rencontrent le Christ ressuscité, glorifié et soient sauvés. Il y a un parallélisme absolument extraordinaire entre 1 Roi 17 et Actes. Au chapitre 10. Nous pouvons donc dire ce matin que les corbeaux ont aidé Élie à accepter le secours d'une veuve païenne. Pensez au nationalisme juif qui va prendre un relief tout à fait caractéristique avec l'appel de Jonas à se tourner vers les Ninivites pour les appeler de manière très indirecte par ce message de jugement à la repentance. Mais en allant plus loin, les corbeaux non seulement ont aidé à accepter le secours d'une veuve païenne, mais les corbeaux ont préparé le salut de la veuve dans l'esprit d'Élie. Il fallait faire sauter des préjugés, il fallait un traitement de choc. Et c'est Einstein, qui n'était pas un novice en la matière, qui a dit que le problème de l'homme, c'est que chez lui, les préjugés sont plus difficiles à désagréger que les atomes. Il fallait vraiment un traitement de choc pour ébranler certaines certitudes dangereuses, erronées, dans le cœur de ce champion de Dieu, de l'Éternel, en terre d'Israël. Alors nous avons vu d'abord l'envoi des corbeaux impurs. Mais toujours dans cette dimension pédagogique de préparation d'Élie à se rendre à Sarepta, il y a l'autre dimension. En permettant que le torrent se vide progressivement sous ses yeux, Élie pouvait apprendre à s'identifier à la veuve. Il fallait qu'Élie, qui était un homme orgueux, viril, hein, le bûcheron, comme on disait au début de notre étude, Et il fallait qu'il puisse comprendre le problème de cette veuve. Déjà, de se retrouver à Sidon devait le mettre terriblement mal à l'aise. Il risquait d'être d'autant plus raide et brutal dans son approche de la population. Et il pouvait très bien avoir une attitude manquant de tact, de compréhension et de compassion à l'endroit de cette veuve, puisqu'elle incarnait tout ce monde de Jézabel, de Sidon, de Baal. Et nous savons combien nous faisons amalgame très facilement quand quelque chose, quelqu'un ne nous plaît pas, hein, un lieu dans lequel nous nous retrouvons, des personnes que nous côtoyons et qui nous rappellent des mauvais souvenirs. Hein, nous savons combien parfois cela nous hérisse et nous rend maladroits, voire durs, brutaux, injustes, à cause de nos préjugés. Donc il fallait une double action. Alors Dieu a permis que progressivement son torrent se vide pour qu'il puisse comprendre le drame de cette veuve dont le torrent était presque à sec quand il l'a rencontrée. En effet, qu'est-ce qu'il lui dit ? Bon, il avait évidemment très soif, hein, le torrent était à sec. Donc, il lui demande à boire, ça va de soi. Bon, il n'y avait pas encore trop de problèmes là, mais quand il va plus loin et qu'il commence à exiger d'elle de la nourriture, n'est-ce pas, dans le texte, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Il dit, mais j'en suis à mon dernier repas. J'imagine qu'elle a changé de couleur, cette femme. Il dit, mais j'en suis à mon dernier repas. Tu vois, je n'ai plus qu'une poignée de farine dans un pot, un tout petit peu d'huile dans une cruche, tout juste de quoi faire un dernier repas. Et puis, qu'est-ce qui va se passer après? Je vais chercher deux derniers morceaux de bois, puis quand on aura mangé, mon fils et moi, ben on va mourir. Élie, mon torrent, il est pratiquement complètement à sec. Et tu viens de me demander de te nourrir, toi que je ne connais pas. Alors, vous comprenez, Élie, qui avait vu l'eau du torrent baisser, qui avait pu dans son cœur, en tout cas je le redis, je l'aurais fait à sa place, se poser toutes ces questions, en voyant le dernier filet d'eau, ben, il pouvait comprendre. Il pouvait y avoir, au fond du regard d'Élie, une lumière de sympathie. Je peux te comprendre. Tu sais, je viens de passer par là. Je sais ce que c'est que les questions qu'on se pose quand on voit ses vivres baisser peu à peu et que l'on est complètement impuissant, que l'on n'a plus de solution à vue humaine. Chère veuve, je te comprends. Il a pu ainsi, si vous voulez, se frayer un chemin dans le cœur de la veuve, de manière à ce qu'elle puisse bien accepter le message de la fidélité de Dieu. Et voyez-vous, cela me fait dire que nous ne pouvons pas emmener les autres plus loin que là où nous sommes arrivés. Je ne peux pas emmener les autres plus loin que là où je suis arrivé. J'ai retenu cette réflexion de Johnny Erickson. Vous avez lu sans doute l'un ou l'autre de ses livres, cette tétraplégique ou paraplégique qui est utilisée par le Seigneur de manière remarquable aujourd'hui encore, et qui a écrit ceci dans son second livre excellent sur le problème de la souffrance, un pas plus loin. Plus tard, je devais arriver à la conclusion que l'un des buts de Dieu, en nous envoyant de plus grandes épreuves, est de nous sensibiliser à la situation de personnes auxquelles nous ne nous serions jamais comparés sans cela. Laissez-moi vous dire une des raisons pour lesquelles c'est tellement important. J'ai observé que des gens qui ont connu de profondes souffrances sont parfois rebutés par les témoignages bouillants de chrétiens à la vie facile. Essayez de vous imaginer
incurable, regardant la télévision de votre lit d'hôpital, comment réagiriez-vous si un jeune croyant attrayant, plein de talent, pour qui tout semble bien aller, se présenter soudain à l'écran pour déclarer que Christ peut donner la victoire dans toutes les épreuves de la vie? Oh, j'en ai connu, ayant fréquenté les hôpitaux. Et je me souviens d'un étudiant d'institut qui est venu me voir un jour. Ma seule envie, c'était qu'il parte. Oh, ses motivations étaient justes. Mais ce n'était pas de ce qu'il partageait avec moi dont j'avais le plus besoin. Quelqu'un écrit, « Le livre de la vie de chaque chrétien contient quelques pages écrites à la demande du tuteur impitoyable nommé Déception. » Les larmes ont peut-être obscurci ces pages à l'époque, mais en les revoyant à la lumière de l'expérience, nous pouvons y ajouter en bas de page « Merci Seigneur pour ces pertes ». Si vous êtes éprouvé par la déception, ne soyez pas amer. Tournez-vous vers le Seigneur, il est prêt à consoler ceux qui sont abattus. Vous êtes en train d'être préparé de façon unique à en aider d'autres qui ont de la difficulté à réussir leur cours de déception. L'Éternel aidait Élie, qui pouvait verser des larmes devant son torrent qui se vidait. Il l'aidait de manière à pouvoir en aider une autre qui pouvait vivre ce temps de la déception devant son torrent, qui était presque à sec. Faut-il dire que c'est la dynamique d'une évangélisation et d'un témoignage béni, puisqu'il est ici question d'évangélisation. Par Élie, Dieu a gagné le cœur de cette veuve, qui d'ailleurs, après l'épreuve, dans la mort du fils, et sa résurrection témoignera à la fin du chapitre 17, verset 24. La femme dit à Élie, « Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. » Quel beau témoignage. Quelqu'un écrit, « Il y a un type de chrétien dont le comportement, au lieu de préparer les cœurs à recevoir la semence de l'Évangile, ne fait que les endurcir. Ce sont les orthodoxes de la saine doctrine, sûrs de leur affaire, affrontant le prochain d'un air de supériorité, et de ce fait, le poussant à se renfermer en lui-même, au lieu d'ouvrir son cœur au message de la grâce. C'est le chrétien éléphant, dont les pattes massives, en foulant le terrain, le rendent dur et impénétrable. Nous avons besoin que nos torrents se tarissent pour pouvoir comprendre ceux qui nous entourent, dont les torrents sont véritablement à sec, avec tout ce que cela peut entraîner comme rébellion, comme incrédulité, comme déception, comme détresse, comme révolte, comme rejet de Dieu. Comment pourrions-nous les attirer vers le Seigneur si nous sommes incapables de les comprendre dans leur situation? Quelqu'un écrit « La valeur d'une passion » comme celle d'un feu, se juge à la quantité de chaleur et de lumière qu'elle donne. Les fanatiques, comme les incendies de forêt, lancent de grandes flammes, mais détruisent tout ce qui est vert et tendre. Pour vivre passionnément, il faut se discipliner. Pour aimer avec force, il faut se lier par un engagement. La passion est inséparable de la compassion. Si Dieu avait envoyé Élie à Sidon sans le faire passer par l'épreuve du torrent de Kérite, Élie aurait été tenté d'agir en fanatique, comme un feu, avec ses grandes flammes, comme un orage terrifiant, avec la foudre qui tombe. Il est arrivé à Sarepta, il y avait dans son cœur le feu d'en haut, mais c'était un feu qui était contrôlé. Sa passion était inséparable de sa compassion. Albert Camus a eu cette phrase qui m'a beaucoup interpellé. Lorsqu'il a dit « Il y a deux sortes d'efficacité. L'efficacité du typhon et l'efficacité de la sève. » Efficacité du typhon, du cyclone. Efficacité de la sève. J'ai pu mieux comprendre ce qu'Albert Camus voulait dire et que la Bible dit, que Dieu dit dans sa parole, lorsque, en 1989, je me suis rendu en Guadeloupe à deux reprises. Tout d'abord au printemps, ou à ce qui correspond à notre printemps. Mois de mars, avril. Oh, je me souviens, comme chaque fois que je vais là-bas, de ce merveilleux papillon, puisque l'île a un peu la forme d'un papillon, aux deux ailes d'un vert tellement bienfaisant et généreux, posé sur cette mer des Caraïbes d'un bleu extraordinaire et changeant. Combien c'était beau. Et puis, il se trouve que cette année-là, j'avais été invité donc deux fois. J'y suis donc revenu en automne. Et j'y suis revenu, en fait, tout juste après le fameux cyclone Hugo, qui a certainement été le cyclone le plus violent du siècle dernier. Et je me souviens de l'attention extrême que j'ai portée à mon regard sur le nord de cette île, l'aile droite et la plus haute de ce papillon de la Guadeloupe, qui avait été frappé de plein fouet par ce terrible cyclone. Et mon cœur était déchiré. Cette aile était misérable, d'un brun grisâtre, désagréable, complètement brûlé par les sels marins, par tout ce qui était venu. Et puis cette lèpre, parce que cette portion de l'île était complètement dénudée et on pouvait voir donc toutes les maisons invisibles d'habitude. Combien c'était douloureux. Et puis ensuite, j'ai dû visiter un certain nombre de villes et de croyants et d'églises de cette région. Il y avait là des hommes et des femmes qui étaient encore prostrés au milieu de leurs décombres, en larmes, dans une terrible dépression. Et c'était terriblement impressionnant. J'ai vu le bâtiment d'une église complètement éventré et déporté. Et une de mes fonctions était d'évaluer, autant que faire se peut, l'étendue des dégâts et des besoins financiers pour que les églises évangéliques en France puissent se solidariser. Et j'ai pu ensuite aller, dans un voyage suivant, apporter une somme assez importante par solidarité avec les églises évangéliques de la Guadeloupe. Mais quelle souffrance! Et quel contraste, n'est-ce pas, entre l'efficacité du cyclone et l'efficacité de la sève. Lorsque l'année suivante, je suis arrivé, là encore, de mon hublot, j'ai regardé. Et j'étais à nouveau bouleversé parce que ce nord de l'île était redevenu tout vert. Oh, certes, il y avait encore des dégâts sous la végétation. Et il y a 2 ou 3 ans, dans un des tout récents voyages en Guadeloupe, j'ai pu constater que 10 ans après, on était encore en train de réparer les effets, n'est-ce pas, de ce dégât 10 ans auparavant. Mais cette verdure, l'efficacité de la sève. C'est Spurgeon, le prince des prédicateurs, qui a dit « Si vous vous tenez à 500 mètres d'un homme et lui jetez l'évangile à la tête, vous le manquerez sûrement. Mais si vous allez près de lui, si vous lui saisissez la main avec chaleur et lui montrez que vous avez pour lui de l'affection, alors, par la bénédiction de Dieu, vous pourrez diriger ses pas sur le bon chemin. » Vous savez que c'était une des particularités d'Hudson Taylor. Hudson Taylor a été particulièrement aimé en Chine parce que c'était un homme de Dieu qui savait faire passer son affection, y compris par le geste, auprès de ceux et celles qui avaient besoin du Seigneur. Dieu est un fin stratège. Dieu est un parfait pédagogue. Nous avons une sorte d'équivalent à ce récit dans l'Évangile selon Jean. Je l'ai déjà partiellement commenté. Il s'agit de la résurrection de Lazare. Et nous avons le privilège, grâce au récit de Jean 11, de découvrir toutes les facettes de l'événement, y compris la facette qui était inconnue de Marthe et Marie pendant un certain temps. Alors pour nous, ça rend les choses faciles, mais c'est toujours la même chose. Si nous ne nous mettons pas dans la peau des personnages, nous allons passer sur ces récits sans nous laisser saisir dans notre cœur et sans pouvoir en tirer certaines leçons. Alors Dieu a pris soin de conduire la plume de ce vieillard, Jean, pour qu'il donne cette facette d'abord inconnue, cachée, de ses deux sœurs. Le messager arrive en disant « Maître, celui que tu aimes, Lazare, est malade, sous-entend, viens vite, parce que nous croyons que tu as, toi, la puissance pour intervenir. » Et il nous a dit qu'il resta donc pendant 2 jours dans le même lieu, disant « Mais cette maladie n'est pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu. Marthe et Marie n'ont pas entendu cela. » Et pourtant, elles étaient à 9-10 heures de chemin du lieu où Jésus était. Et Jésus a donc continué comme si de rien n'était, alors que il y avait certainement une grande souffrance dans le cœur de Jésus. Il aimait cette famille. Il aimait Marthe et Marie, il aimait Lazare. C'était un havre de paix que de pouvoir entrer dans ce foyer, même si Marthe était souvent bourdonnante et stressante par certains côtés. Mais elle avait des côtés tellement charmants par ailleurs. Et pendant que Jésus vaquait à ses occupations, Marthe et Marie se rongeaient les seins, voyant dépérir Lazare, et elle scrutait l'horizon. Pas de Jésus. Pas de Jésus. On pourrait dire jusqu'à un certain point qu'au fond de leur cœur, elle priait encore. Et Jésus se tenait dans le silence. Le silence le plus absolu. Et finalement, ils ont vu leur frère bien-aimé rendre son dernier soupir. Jésus n'était pas là. Et puis il y a eu très rapidement, comme dans ces pays chauds, l'ensevelissement derrière la lourde pierre. Et Jésus n'était toujours pas là. Et pendant ce temps, Jésus dialoguait avec ses disciples et à un moment donné, il a dit, bon, ben maintenant, c'est l'heure. C'est l'heure d'aller. Alors, on ne l'a pas compris, hein, on l'a dit. Allons, afin de mourir avec toi. Tu ne devrais pas, tu ne te rends pas compte. Ah non, mais si je travaille dans la lumière du jour, dans la lumière du Seigneur, je peux aller. Je ne cours aucun risque. Je suis dans le plan de mon Père. Et quand Jésus est arrivé, vous savez ce qui s'est passé. Lazare était depuis 4 jours dans le tombeau. Ça sentait terriblement mauvais. Le torrent était complètement à sec dans la vie de Marthe et Marie. Et vous savez comment ces deux femmes, successivement, lui ont dit, mais si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Et Jésus de répondre à ce « si » par un autre « si ». Marie, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Pendant tout ce temps de silence de Jésus, cet apparent refus d'écouter la prière de Marthe et Marie, Jésus en réalité n'avait qu'une seule préoccupation. C'était d'intervenir à l'heure de Dieu, mais de manière glorieuse dans cette situation. Et pour que la manière soit glorieuse, il fallait que Lazare... Lorsque les torrents terrestres sont à sec, le ruisseau de Dieu est encore plein d'eau. Et je pense ici, et je me réjouis de le donner, nous arrivons à la fin de notre étude, de donner ce témoignage. Il n'est pas personnel. C'est le témoignage émouvant de 2 jeunes missionnaires, je les ai déjà évoqués dans le passé ici. 2 jeunes missionnaires, Arthur et Vilda Matthews. Ils ont été, au siècle dernier, le dernier couple missionnaire, les 2 derniers ouvriers membres de la mission à l'intérieur de la Chine, qui ont quitté la Chine communiste, avec leur petite fille Lila, en 1953. Ils étaient arrivés avec un cœur brûlant pour le Seigneur, un très lourd fardeau pour les besoins spirituels des Mongols, en 1950, dans une bourgade dont je n'ose pas prononcer le nom, Wangyang, blottie dans une haute vallée montagneuse à 3000 mètres d'altitude aux confins des terres mystérieuses de l'Asie centrale, dans la vaste province de Kansu. Ils y vécurent dans un pauvre logis, dans un dénuement extrême, de plus en plus isolé de l'extérieur. Les autorités leur interdirent de travailler, d'avoir des contacts avec la population locale. Elles leur firent subir un véritable supplice moral, fait de brimades, d'humiliations en tout genre, de promesses fallacieuses, de chantage, d'accusations mensongères, d'insinuations perfides. Et la situation s'aggrava progressivement, jusqu'à ce que finalement, à l'issue de plus de 2 longues années d'attente éprouvante, jalonnée de mains espoirs déçus, ce couple reçoive leur visa de sortie pour regagner enfin le monde libre, pendant que tous les missionnaires, et ils étaient nombreux, rentraient chez eux, priaient de tout leur cœur afin qu'ils soient libérés. Et c'est au cours du dernier culte avec les chrétiens chinois, le 25 mars 1951, après ils n'ont plus pu se réunir avec eux. Jour de Pâques, que Vilda, l'épouse, toucha le fond. Elle s'aperçut soudain qu'elle ne pouvait plus se joindre à l'auditoire pour chanter « Il vit ». Le doute s'était emparé d'elle, la sécheresse avait détruit toute consolation, les « pourquoi » et les « si » se bousculaient dans sa tête. Un peu plus tard, Seul dans sa pauvre cuisine, occupé aux tâches monotones du ménage, Wilda se souvint tout à coup de deux traités. L'un était écrit par Simpson, le fondateur de l'Alliance chrétienne missionnaire internationale, dont nous avons un livre excellent en français. Ce traité avait pour titre « Les si dans votre vie » et l'autre était de Hudson Taylor et s'appelait « Les causes secondes ». Si seulement cette lettre ne nous avait pas été envoyée, pensait Wilda. Elle prit le traité et lut « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » En fait, il aurait pu être présent car il n'était pas loin. Il connaissait toute leur épreuve. Et cependant, il laissa mourir Lazare. Pour les deux sœurs, c'était affreux. Je pense que dans toute vie, il y a un si, une chose, une circonstance que Dieu aurait pu, s'il l'avait voulu, faire autre. Il est tout puissant. Et cependant, il a permis que ce si soit posé. Je ne minimise pas ce si de votre vie, quel qu'il soit. Apportez-le au Seigneur. Écoutez-le vous répondre ce qu'il dit à Marthe. À son si, il répondit par un autre, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» La gloire de Dieu doit résulter de ce si dans votre vie. Ne pensez pas à ce que votre si comporte. Faites-en une puissance pour Dieu. Savez-vous qu'un jour, une lumière éclairera vos énigmes ? Alors, acceptez et dites, tout ce qui m'a été donné, tout ce qui m'a été ôté, contribue à mon utilité pour Dieu. Affrontez ceci dans votre vie et dites du fond du cœur, pour y répondre, j'ai Jésus. Petite racine, cherche la rivière. C'est ce que fit Wilda. Le second traité disait, le secret de la paix intérieure d'Hudson Taylor, au milieu des tempêtes de haine qui l'assaillaient, était son refus de s'attarder aux causes secondes. Il croyait qu'il n'avait affaire qu'à Dieu seul. Quand sa femme bien-aimée mourut, il écrivit « Si nous sommes satisfaits de sa volonté et de ses voies, notre paix est parfaite. » Élie n'avait pas affaire au torrent. Élie avait affaire à Dieu seul. Et permettez-moi, en terminant, de faire une transposition. Dans l'histoire de la résurrection de Lazare, changeons les personnages. À la place de Lazare, qui signifie que Dieu est mon secours, l'Éliézer de l'Ancien Testament, mettons le Seigneur Jésus. Dieu est secours. Dieu sauve. À la place des deux sœurs, Marthe et Marie, mettons les disciples. À la place de Jésus, mettons Dieu le Père. Les disciples sont désemparés. Jésus, leur secours, va mourir. Celui que le Père aime est sur son lit d'agonie. Ils ne comprennent pas. Leur torrent en est à son dernier filet. Ils ne comprennent pas. Et Dieu se tait. Jésus souffre. Jésus est arrêté. Jésus est traîné devant 6 tribunaux, tous plus iniques l'un que l'autre. Et puis il monte lourdement chargé vers le lieu du crâne pour y mourir entre 2 brigands. Et Dieu se tait. C'est la solitude du Fils sur la croix. C'est le blackout total au point même que le ciel s'obscurcit. Apparemment, c'est l'échec total. C'est la déroute de Dieu. C'est un silence glacé, incompréhensible. Le torrent est totalement à sec. Le diable a gagné. Et pourtant non. Dieu se tait, mais il est en train de travailler au salut de l'humanité, à mon salut, à notre salut, en laissant son Fils bien-aimé mourir sur la croix. Et c'est lorsqu'il n'y a plus aucun espoir, lorsque le cadavre est dans la tombe, que Dieu ressuscite son Fils. Et c'est alors la fin de la tristesse pour toutes les Marthes et Marie. Et Lazare même est pleuré que nous sommes. Voilà en filigrane ce qu'annonçait le torrent de Kérit dans sa sécheresse absolue. Le silence de Dieu est un silence porteur de fruits. Oh combien ! Silence qui permet à Dieu de travailler dans nos cœurs pour que nos cœurs deviennent malléables, que nous apprenions à sympathiser, à aimer, à nous identifier, sans perdre la colonne vertébrale de la sainteté, mais en évitant la dureté, l'agressivité, l'orgueil de la supériorité que nous sommes tentés de brandir si facile. Merci Seigneur d'avoir placé Élie au bord d'un torrent avec des corbeaux pour qu'il puisse ensuite rendre un tel témoignage auprès de cette veuve de Sarepta dans le territoire de Sidon.